Accent d'Europe, Juliette Rangeval, Anne Cantner.
Bienvenue à tous. La Pologne se penche sur ce qui est considéré comme le plus grand scandale politique du pays depuis la fin du communisme.
Depuis quelques semaines, une commission d'enquête parlementaire travaille sur l'utilisation à des fins politiques du logiciel espion Pegasus par le PiS, le parti au pouvoir jusqu'aux dernières élections d'octobre.
Et c'est d'ailleurs le chef de file de ce parti très conservateur, Jaroslav Kaczynski, qui sera appelé à comparaître ce vendredi, Adrien Sarla.
Oui, alors Jaroslav Kaczynski, il n'est pas habitué à se retrouver dans cette position. Ces dernières années, même s'il n'occupait aucun poste officiellement dans le gouvernement, c'est lui qui tirait les ficelles en coulisses. Mais avec l'arrivée au pouvoir de la coalition libérale menée par Donald Tusk depuis octobre dernier, les choses ont changé et les parlementaires cherchent à faire la lumière sur l'utilisation du logiciel Pegasus par le parti. La présidente de la commission d'enquête, Magdalena Sroka, s'est déjà dite prête à auditionner le ténor de la politique polonaise.
Je vais d'abord lui demander s'il savait ce qui se passait avec Pegasus, car je rappelle qu'il a été le premier à confirmer l'achat de ce système d'espionnage. Aujourd'hui, il doit en assumer la responsabilité, car il était le chef du comité ministériel de la sécurité, et il doit comparaître devant la commission pour en parler.
Justement, on se souvient qu'en 2019, les responsables politiques français avaient aussi été visés par des écoutes illégales via ce logiciel Pegasus. À l'époque, Adrien, on avait parlé d'une possible ingérence russe dans les affaires françaises, mais en Pologne, c'est l'ex-gouvernement lui-même qui est accusé d'avoir utilisé ce logiciel.
Exactement. Alors, il faut savoir que Pegasus est un outil de défense qui peut être utilisé pour assurer la sécurité du pays. Mais l'utilisation dont on parle ici a été faite en pleine campagne électorale, législative et européenne de 2019. Or, on s'est aperçu que les appareils infestés par le logiciel appartenaient quasiment tous à des grandes figures de l'opposition de l'époque ou aux stratèges qui gravitaient autour de Donald Tusk. Parmi les victimes de cette opération d'espionnage, on trouve entre autres le chef de campagne du parti de Tusk, son avocat, ou encore celui qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, Radosław Sikorski. Des noms comme celui-là, il y en a plusieurs centaines au total, dont une majorité écrasante d'opposants ou de critiques de la politique du PiS. Les soupçons se sont donc vite portés sur un espionnage à grande échelle de l'opposition par le parti alors au pouvoir. Ici, dans la presse, on parle même d'un Watergate polonais.
Pourtant, parmi les infiltrés, il n'y a pas que des hommes politiques d'opposition.
Mais c'est vrai, Juliette, parmi les victimes de ces écoutes, on retrouve aussi des ministres et députés ou des hommes d'affaires même affiliés à la majorité de l'époque, probablement pour s'assurer qu'ils n'échappaient pas au contrôle du parti, justement. D'ailleurs, certaines informations récoltées par le logiciel espion ont été diffusées par la suite sur la télévision publique, elle aussi entre les mains du PiS. Comme pour maintenir la pression, en quelque sorte, sur les membres du parti.
Mais en plus d'avoir détourné le logiciel à des fins politiques et électorales, on reproche aussi au gouvernement précédent les conditions d'achat du logiciel.
Eh bien, ce qui est en plus reproché au service de renseignement polonais, c'est d'avoir acheté des licences de ce logiciel à hauteur de 5 800 000 euros. Et ce, avec l'argent du Fonds pour la justice, censé aider les victimes et témoins dans le domaine judiciaire. Et lors de l'ouverture de la commission d'enquête, Magdalena Sroka a tenu à se montrer intransigeante face à ses collègues députés.
Tous ceux d'entre vous qui ont profité des services polonais à des fins politiques devraient être derrière les barreaux. Aujourd'hui, ils sont en liberté, mais je suis convaincue que cette commission permettra d'engager de nouvelles poursuites et que personne n'aura plus envie de gracier ceux qui ont détourné les services spéciaux polonais.
Alors cette affaire d'espionnage passionne les Polonais par son caractère inédit. Il serait plus de 60% aujourd'hui à s'intéresser aux travaux de la commission d'enquête parlementaire. Autant de citoyens qui devraient suivre avec attention l'audition de Kaczynski ce vendredi.
Merci Adrien, à bientôt. Au Kosovo, le Premier ministre Albin Kurti poursuit sa prise de contrôle du nord du pays malgré des tensions avec la minorité serbe.
Le Premier ministre de ce petit pays des Balkans a entrepris de mettre fin à la tutelle de fait exercée par Belgrade sur les régions peuplées par la minorité serbe. L'objectif, Juliette, c'est de pousser la Serbie à reconnaître l'indépendance du Kosovo.
Et Albin Kurti a déjà réussi une partie de son pari malgré les critiques répétées de ses partenaires occidentaux. photos, monnaie, mais aussi plaques d'immatriculation ou cartes d'identité étaient hier régies par Belgrade, aujourd'hui par Pristina. Mais cette politique de fermeté est dénoncée par les Serbes locaux. C'est un reportage de Louis Seyé.
Elles sont sûrement le signe le plus visible des changements récents survenus dans le nord du Kosovo. Composées essentiellement de Kosovars albanais, les unités de police quadrillent les routes de cette petite région régulièrement secouées par des pics de violence. L'officier Yeton Faci.
Là, on est en train de faire une patrouille de routine. Une patrouille que l'on fait tous les jours avec les unités d'intervention rapide dans cette zone qui est sous notre responsabilité. On se dirige maintenant vers le village de Banska. Là où le 24 septembre dernier, un groupe de terroristes venu de Serbie a tué l'un de nos collègues.
Depuis l'attaque meurtrière de l'automne dernier, un calme précaire semble revenu dans cette région à majorité serbe. La police kosovare impose les lois du petit État, une situation presque impensable avant 2021. Auparavant, sous le contrôle de Belgrade, le nord du Kosovo était synonyme de zone de non-droit et de trafic en tout genre. Une période révolue selon Veton Elchani, directeur adjoint de la police régionale.
Il n'y a pas de problème ici dans le Nord. Les gens qui ont des antécédents criminels ou les groupes criminels qui sont actifs, on peut s'en occuper facilement. Le problème, il est plus politique. Belgrade dispose d'un bouton rouge et si les autorités serbes appuient dessus, alors la situation peut basculer ici.
Police, mais aussi tribunaux ou mairies, avec sa politique de fermeté, le Premier ministre Albin Kurti a réussi à imposer les institutions kosovares en à peine 3 ans. Des maires albanais administrent aujourd'hui 4 municipalités du Nord, mais ils ont été élus avec moins de 4% des voix suite au boycott de la communauté serbe. C'est le cas de Lulzim Hetemi, membre du parti de Kurti. Le maire a employé des dizaines de Serbes locaux et il ne s'oppose pas à la tenue de nouvelles élections demandées par les partis serbes.
Ici, on est à Leposavić, dans la République du Kosovo. Si les hommes politiques serbes veulent retourner aux urnes et remporter les voix des citoyens serbes du Kosovo, il faut qu'ils respectent les lois du Kosovo. Et il n'y aura pas de problème. La communauté serbe représente 5% de la population du Kosovo. Il faut qu'ils comprennent qu'ils vivent au Kosovo et pas en Serbie. Il faut qu'ils l'acceptent une fois pour toutes.
La plupart des Serbes du Kosovo vivent mal ces injonctions à reconnaître enfin la souveraineté de Pristina. Surtout quand dans le bureau du maire, le drapeau d'Albanie côtoie celui du Kosovo. Aleksandar Arsenijević est le dirigeant d'un nouveau parti serbe, opposé autant à l'ingérence de Belgrade qu'à la politique actuelle de Pristina. Selon lui, le Kosovo multiethnique défendu par les diplomates occidentaux n'existe pas.
Si vous allez dans le sud maintenant, vous ne verrez que des drapeaux albanais. Il n'y a presque pas de drapeau du Kosovo. Donc si cette majorité albanaise s'identifie un jour comme société kosovare et qu'il se présente comme kosovare, alors, à ce moment, il nous sera peut-être plus facile de devenir kosovare aussi. Nous, la position de notre parti démocratie serbe, c'est que le Kosovo doit être aussi serbe et pas juste serbe. Que chacun d'entre nous, qu'importe son ethnie, puisse se sentir kosovare.
Ces derniers mois, beaucoup de Serbes du nord du Kosovo ont reçu leur carte d'identité ou leur passeport kosovar, mais ils ont dû renoncer à leur plaque d'immatriculation serbe, payer leur facture d'électricité et le dinar serbe a aussi été interdit. Des victoires pour les autorités kosovares, mais qui sont souvent perçues comme des violences institutionnelles. Certains Serbes s'estiment traités comme des citoyens de seconde zone et ils disent craindre pour leur sécurité. Selon une étude de l'ONG Active, un quart seulement des jeunes Serbes pensent rester au Kosovo. Son directeur, Miodrag Milicevic.
Aujourd'hui, il n'y a plus de dialogue mené par Belgrade ou Pristina avec les organisations de la société civile des Serbes du Kosovo. Il n'y a que le dialogue politique entre Belgrade et Pristina. Aujourd'hui, la plupart des villes du Kosovo sont presque mono-ethniques. Tout cela ne laisse pas de place pour l'optimisme. La seule chose qui me rassure un peu, ce sont les rares citoyens ordinaires qui essaient de mettre la politique de côté et qui essaient de se concentrer sur des questions économiques et d'établir une communication avec l'autre.
Le fossé se creuse entre les communautés du Kosovo et le dialogue de normalisation mené par l'Union européenne paraît dans l'impasse. À Belgrade comme à Pristina, les regards sont déjà tournés vers les élections américaines de novembre et un possible changement de la politique des États-Unis dans la région.
Viens, viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison, viens.
Nous allons dans une petite station du Jura français, Métabier, prise en exemple par la Cour des comptes pour son travail de transition face au changement climatique.
La Cour publie aujourd'hui son rapport annuel, un rapport sévère. Elle juge la situation des comptes publics préoccupante et s'intéresse particulièrement à la question du climat. Elle pointe du doigt notamment le manque d'anticipation de la plupart des stations de ski françaises. Alors que la France est la deuxième destination mondiale du tourisme hivernal et que cette manne économique est aujourd'hui menacée par le réchauffement climatique.
Avec une exception donc pour Métabier où s'est rendue Lucille Gimbert, la petite station regarde en face la fin annoncée du ski.
Donc là, on se trouve sur le front de neige du bas des pistes de la station de Métabier, dans le Haut-Doubs. On est le 4 mars et c'est actuellement presque tout vert. Il reste quelques taches de neige par-ci par-là. Alors que ça devrait, en théorie, être tout blanc avec beaucoup de skieurs qui descendent les pistes de ski.
Cet hiver catastrophique, qui se termine comme le décrit le chef des pistes Sylvain Autier, confirme ce que projettent les scientifiques pour la station de Métabier. La baisse drastique de l'enneigement et la fin du ski alpin d'ici 2030-2035. Un crève-cœur pour les natifs de cette montagne, le Mont d'Or.
C'est un peu de la tristesse parce que quand on a grandi dans ces environnements avec la neige, les plaisirs que ça peut procurer, c'est quand même un bonheur presque inégalable.
Mais le processus de deuil est enclenché à Métabier. Première décision forte pour s'adapter, en 2020, la station a acté qu'elle n'investirait plus dans de nouvelles remontées mécaniques, plus rentables, ni dans de nouvelles infrastructures pour fabriquer de la neige artificielle. Olivier Erard est directeur du syndicat mixte qui gère la station.
Ça a été vraiment, vraiment un très très grand renoncement, hein, puisque c'est vraiment à l'envers de la culture de cette industrie-là, hein, comme beaucoup d'industries finalement, où on est toujours dans la performance, toujours plus de productivité, plus de volume, etc.
Le renforcement de la maintenance des installations doit permettre de les faire durer au maximum, le temps que Métabier fasse sa transition. Pour attirer les vacanciers toute l'année, la station a renforcé son offre vélo, rénové une luge sur rail, elle développe le trail, la randonnée, mais cette diversification ne sera pas suffisante, assume Delphine Grézard, responsable ressources humaines, car rien ne remplacera le poids économique du ski alpin, moteur de 50% de l'économie touristique du territoire.
Le VTT, ça n'attirera jamais l'éventail de population qu'a attiré le ski. Le VTT, simplement même géographiquement, on a des pistes où on peut n'être qu'en individuel, descendre l'un après l'autre, alors que le ski, c'est des espaces énormes qui peuvent accueillir beaucoup plus de personnes. Donc, il faut faire le deuil de ça.
Le pari est donc d'élargir le périmètre et de trouver des sources de revenus touristiques ailleurs dans le territoire. Claire Le Boisselier est chef du projet Transition Touristique du Haut-Doubs.
Sur ce territoire, on a des pépites, on a des lacs, on a des forêts qui sont magnifiques. Il y a un château qui est splendide, il y a aussi tout un patrimoine gastronomique. On a du comté, du fromage qui s'exporte. Et donc, on s'est dit, mais sur ce territoire, finalement, c'est ça qui va compenser le reste.
La méthode Métabier, c'est aussi d'avoir réussi à embarquer des acteurs de terrain de tous bords. Des élus, des entrepreneurs, des associations, en organisant la co-construction des solutions à l'échelle du territoire grâce à des techniques d'innovation participative et à des groupes de travail. Olivier Erard, directeur du syndicat mixte de Métabier.
C'est un peu l'électrochoc et après la thérapie de choc. En fait, nous, on est là, on balance le coup, mais derrière, on est là. C'est la méthode de dire on n'a pas les solutions, mais on va y travailler. Ça paraît tout bête, mais c'est d'accepter qu'on met de l'ingénierie, c'est-à-dire du temps humain, intellectuel, d'animation, de relations, pour faire travailler les gens ensemble et croire que, en faisant cela, on va faire émerger des solutions qui soient adaptées.
Ce travail pour faire émerger les bonnes solutions est loin d'être terminé. Dans son magasin de sport, Jérôme Gresset a développé une offre vélo en plus de la location de ski. Mais cet hiver, il n'a fait que 30% du chiffre d'affaires escompté.
C'est un petit peu l'incertitude parce que la station, effectivement, on met tout en place pour se diversifier et puis faire une transition. Nous, en tant qu'acteurs, on suit le mouvement parce que pour nous, c'est important aussi. Après, aujourd'hui, on n'est pas encore une fois prêt à se passer complètement du ski alpin aujourd'hui, quoi.
20% des acteurs de la station se sont déjà lancés dans cet effort d'adaptation. Le défi des années à venir sera donc d'élargir bien au-delà. Now I won't be your dog. Now I won't be your dog.
un chiffre pour rendre visible la chute de la natalité en Espagne. L'Italie et l'Espagne dans le sud du continent sont particulièrement concernées par le phénomène. Et justement, à Riron, sur la côte des Asturies, on compte désormais 9 300 000 chiens contre 6 600 000 enfants de moins de 14 ans. Plus de chiens que d'enfants donc, et ça se constate partout dans la ville, Diane Cambon.
Chaque jour, dès le lever du soleil, on les voit gambader sur la grande plage de Riron qui s'étire sur 1,5 km. Leur nombre ne cesse d'augmenter, comme le fait remarquer le sociologue Andrés Alonso de l'Université d'Oviedo.
Riron a la particularité de recenser 37 000 chiens. En soi, ce n'est pas un chiffre qui attire beaucoup l'attention. Mais quand on le compare au nombre d'enfants, alors on prend conscience de l'ampleur du phénomène, car il y a moins d'enfants que de chiens dans cette ville. Ici, il y a seulement 35 000 humains de moins de 18 ans. Et cette tendance se généralise dans toute l'Espagne.
Et la ville se transforme pour suivre cette évolution. À chaque coin de rue, on peut trouver une boutique spécialisée pour les animaux domestiques. Avec les derniers gadgets et sur le front de mer, il n'est pas rare de croiser plus de poussettes pour chiens que pour enfants. Tout comme dans les cafés de la ville, où il y a toujours une gamelle d'eau à l'entrée.
Ici, on peut entrer dans presque tous les bars et les restaurants avec son chien. 20% des hôtels acceptent les animaux de compagnie. C'est le taux le plus élevé d'Espagne. Dans le même temps, certains établissements hôteliers font comprendre à leur clientèle que les enfants ne sont pas les bienvenus.
Les enfants, Eliana, 36 ans, ne les envisage même pas. Son berger allemand, qu'elle promène chaque jour sur la plage durant une heure, lui suffit amplement.
Toute l'affection que te donne un chien, c'est incroyable. Ils sont d'une fidélité, hein, Harry. Je ne les changerai pour rien au monde. Et avoir un enfant, ça n'entre même pas dans mes plans. Mon budget ne me permet pas d'en avoir. Avoir un enfant aujourd'hui, c'est très compliqué. Ma vie devrait changer du tout au tout. Avoir un autre job, de meilleurs horaires. Et si je dois payer quelqu'un pour garder mon enfant, à quoi ça sert d'avoir un môme? Alors que mon chien, je peux le laisser 5 heures tout seul sans problème.
Monica a 39 ans. Propriétaire d'un teckel à poils longs, elle partage cette opinion.
Pour moi, c'est comme un membre de la famille en plus. Lui, il a 4 ans et chaque année, je l'aime encore plus. J'ai toujours eu des chiens. Dès qu'ils disparaissent, j'en reprends un. Ils doivent combler ce vide et je n'ai pas d'enfant car c'est plus compliqué par les temps qui courent. Et le chien exige moins de choses.
Le sociologue Andrés Alonso fait le parallèle entre la baisse des natalités et l'augmentation du nombre de quadrupèdes.
La génération des millennials, née entre 1980 et 2000, est celle qui a le plus d'animaux domestiques. Plus de la moitié des bêtes achetées durant la pandémie appartiennent à des moins de 34 ans. Et c'est justement cette génération qui a le taux de natalité le plus bas si on le compare avec d'autres générations du même âge à une autre époque.
Avec un taux de natalité de 1,2 par femme, soit un des plus bas d'Europe avec l'Italie, l'Espagne doit faire face à une population de plus en plus vieillissante. Les raisons ne manquent pas pour expliquer le refus de fonder une famille avec enfants. Difficultés économiques, logement, individualisme. José, qui a adopté dans un chenil un lévrier, savoure ses moments en solo avec son chien.
C'est un compagnon très important pour moi. Je préfère parfois mon chien aux humains. C'est un amour plus honnête. Regardez, il ne se sépare pas de moi.
Quant à la natalité, elle ne décolle toujours pas en Espagne, malgré des mesures du gouvernement fortes, telles que les 16 semaines de congé parental, aussi bien pour les femmes que pour les hommes.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Dans un instant, l'actualité continue sur RFI. N'oubliez pas le podcast que vous pouvez retrouver sur l'appli Pure Radio, par exemple. À bientôt.